This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve des repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Léna Kim. Alors nous poursuivons notre périple à travers les années d'occupation, les années 40 à 44. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des années où domine la censure. Alors la censure sur tous les supports d'information. Certes, ces supports ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais il existe de nombreux journaux, papiers, presse quotidienne, presse hebdomadaire. Il existe des radios, même si la télévision encore n'a pas fait son apparition. Et le pouvoir contrôle absolument tous ces supports. Ils sont contrôlés par des services de la censure. Quelques journaux clandestins arrivent péniblement à être publiés et distribués sous le manteau. D'autres journaux choisissent ouvertement la collaboration, écrivant une page très noire de l'histoire de la presse écrite. La radio est aussi contrôlée par le régime de Vichy, Radio Paris, la radiodiffusion nationale, dont Radio Vichy, là où est le siège de l'État français, présidé par le maréchal Pétain. Il n'y a quasiment pas d'émetteurs clandestins. À cette époque, l'installation aurait été trop lourde et facilement repérable. Le contrôle de l'édition se réalise, elle, au travers de la répartition du peu de papier disponible et au travers d'un comité d'organisation des industries, arts et commerce du livre. Donc les livres sont également très contrôlés et leur sortie très limitée. Alors je vous propose d'écouter la bande-son d'une bande d'actualité de l'époque, donc totalement contrôlée par le régime. Ça s'appelle « Actualité en France » et ça décrit, à la gloire du maréchal Pétain, un voyage qui se situe au début 44, après les premiers bombardements opérés par les Alliés.
Avant de quitter Vichy pour se rendre en zone nord au chevet des cités meurtries, le maréchal assiste à la traditionnelle cérémonie des couleurs qui se déroule ici chaque dimanche matin depuis l'armistice. La foule, venue aujourd'hui plus nombreuse que de coutume, acclame le grand soldat. Devant l'hôtel du parc, Madame la maréchale et les collaborateurs du chef de l'État. Dans sa voiture qui va prendre la route vers l'île de France où est située sa résidence provisoire. L'Allier et Moulin. Et voici la demeure seigneuriale du château de Voisin près de Rambouillet, où le maréchal, à son arrivée, s'entretenait quelques instants avec les préfets et les maires de la région. Ici, il devait reprendre toutes ses activités habituelles, recevant ses ministres et s'entretenant fréquemment avec le président Laval. Dimanche matin, au petit village près du château. La première visite allait être pour Rouen le jour même de la fête de Jeanne d'Arc. Le maréchal est d'abord acclamé par les habitants de Rambouillet. Évreux, une réception enthousiaste est réservée au maréchal qui passe quelques instants à la préfecture. Évreux qui, quelques jours plus tard, devait être en partie détruite. Accueille à son tour le chef de l'État qui va se diriger vers la capitale normande, vers Rouen, déjà terriblement meurtri alors, et qui, la semaine suivante, allait connaître bien d'autres destructions, bien d'autres souffrances. Le cortège traverse la ville dévastée. Le chef de l'État va assister à la messe célébrée dans l'église Saint-Ouen. Signification en ce jour où les cardinaux de France venaient de faire appel à l'épiscopat d'Angleterre et d'Amérique pour que cessent les raids terroristes. Le maréchal est accompagné jusqu'à sa voiture par Monseigneur Petit de Julleville, primat de Normandie. Acclamé par les Rouennais, le grand soldat arrive sur la place du Vieux Marché. Le maréchal de France fleurit la dalle marquant l'emplacement exact où les Anglais brûlèrent la sainte de la patrie. Ici, il y a 5 siècles, mourait Jeanne, qui plus que jamais doit rester le symbole, l'âme de notre unité, de cette unité si ardemment demandée aux Français par le glorieux soldat. 8 jours plus tard, le chef de l'État rend visite à la banlieue sinistrée de la capitale, à cette banlieue si souvent meurtrie. Le cortège officiel parcourt les ruines de Juvisy, où l'on comptait alors 239 morts, 610 immeubles totalement anéantis et près de 1500 familles sans abri. La nouvelle de la venue du maréchal s'est rapidement propagée. À Villeneuve-Saint-Georges, le chef de l'État décore les sauveteurs qui ont déployé le plus d'héroïsme. Témoignage de la sollicitude du chef de l'État, ces visites sont autant de pèlerinages tragiques qui affirment sa profonde solidarité avec le peuple de France qui souffre. Souffrance encore à Épinal, qui a atrocement été touchée par les torpilles aériennes. Une alerte vient de finir, tout le monde a quitté les abris. De clameurs d'enthousiasme qui seraient déplacées, le drame est encore trop présent. Le passage du maréchal fait briller les yeux et apporte un peu d'espoir. Les mains se tendent vers le grand soldat. La visite de notre chef à cette terre de Lorraine, si souvent ravagée au cours des siècles, se poursuit par Nancy. Comme pour Paris, pour Rouen, pour Épinal, la venue du maréchal n'avait été ni annoncée ni préparée. Et pourtant, spontanément, hommes, femmes, enfants sont sortis de leur demeure.
gouvernement français ne doit se mêler à ce conflit. Autrement, ce serait lamentable pour vous et pour la France. Acceptez les épreuves qu'on nous envoie. Ces épreuves sont terribles, mais elles sont d'autant moins terribles que vous n'y prendrez pas part. Ayez confiance dans l'avenir de la France.
Il est assez navrant d'entendre ce vieil homme de 80 ans parler de l'avenir de la France alors que quelques mois plus tard, il va être arrêté, incarcéré, et les forces alliées vont débarquer en France et sur l'ensemble de l'Europe. Et opérer, évidemment, la chute de l'empire allemand qu'aurait voulu instaurer Adolf Hitler. Alors, durant ces années d'occupation, il faut savoir que, malgré le fait qu'il y ait deux zones, une zone dite occupée et une zone dite libre, eh bien, en 1943, les deux zones volent en éclats et la police allemande, et notamment la Gestapo, se mettent à agir sur l'ensemble du territoire. La division en deux zones n'est plus qu'une fiction et les exactions de la Gestapo en zone libre ne se comptent plus. La totalité des forces en présence, les troupes d'occupation, sont d'environ 40 000 hommes, c'est-à-dire, je parle des militaires, bien entendu, et cet effectif n'inclut pas les troupes stratégiques qui sont, elles, basées sur le mur de l'Atlantique et le long de la Manche, les forces qui vont être opposées aux forces alliées au moment du débarquement. Donc, pour ce qui est des forces intérieures, donc des forces de police, il y a 6 000 gendarmes, il y a 1 000 personnes qui font du renseignement, et puis après, on ne sait plus trop le nombre précis de police spéciale, de divers services qui traquent les gens de la résistance. Parce que, évidemment, dès le début de l'occupation, une résistance va se mettre en œuvre, et peu à peu, celle-ci va monter en charge. Et en 1943, donc, elle est particulièrement efficace. Et devant l'accentuation de son efficacité, eh bien, les forces des diverses forces de gendarmerie, que ce soit la gendarmerie allemande ou la gendarmerie française et les forces de police françaises, vont se restructurer pour essayer de faire front face à cette résistance qui elle-même s'organise et va donc préparer le terrain pour le débarquement allié. À partir de 1943, il y a vraiment une véritable organisation. Il y a des filières d'évasion qui se mettent en place, des passages aux frontières, alors notamment évidemment la ligne de démarcation, mais aussi le passage à la frontière espagnole, le passage en Angleterre avec des bateaux de fortune. Il y a une fabrication intensive de faux papiers et la diffusion de toutes sortes d'informations clandestines sous diverses formes, tracts, journaux, documents en tout genre. Alors la radio s'organise aussi, et malgré la censure, malgré le fait que sur le territoire français il n'y a plus aucune source d'information radiophonique, eh bien, s'organise à Londres, et c'est une chose connue et célèbre. Eh bien, à Londres, donc, on organise une radio libre et qui s'adresse aux Français et qui fait passer un certain nombre de messages codés à la résistance. Alors, évidemment, la plus célèbre émission de la période d'occupation, c'est la fameuse émission « Les Français parlent aux Français » où on égrenait une espèce de litanie de messages personnels qui, en fait, étaient autant de messages codés qui permettaient de passer des informations au réseau de résistance. C'est une 43, c'est une période un peu intermédiaire, puisque c'est le moment où la décision va se faire, où l'armée allemande marque le pas et où, dès le début de 44, eh bien, les forces alliées vont prendre le dessus, d'abord avec des bombardements, puis avec des débarquements. 43, c'est quand même le moment où les alliés débarquent en Afrique du Nord d'abord, puis en Sicile, remonte la botte italienne, et c'est aussi le renversement de Benito Mussolini qui est littéralement lynché par ceux qui l'avaient adoré. Pendant ce temps, le jazz, lui, prospère de son côté. Et c'est l'année 43, c'est l'année Duke Ellington, parce que Duke Ellington ne compose plus des morceaux courts, des standards joués par des petites formations. Il va composer une suite, à la manière d'un musicien classique, une suite en trois mouvements, une sorte de symphonie, de fait. Ces trois mouvements s'appellent Black, Brown and Beige, et cette suite raconte la fondation de l'État américain dans toutes ses couleurs, d'où le Brown, Black and Beige. Je vous propose d'écouter le deuxième mouvement de cette suite. Eh bien, il s'agit du Brown, qui mêle un peu toutes les couleurs.
And now, the next and second movement, which is Brown, is divided into three divisions. Of course, the first is the salute to the West Indian influence, and the second, the lighter attitude. Of course, that is representative of the younger generation who had so much to look forward to when the proclamation of emancipation was declared and came as a skyrocket. But of course, there's two sides to all stories, and it was just a small group of very old people who had earned the right to sit down and rest on somebody's property, and of course their song was a very plaintive but tragic one. It's represented, and I wanted to call particular attention to it because it's represented in a couple of duets, one of the baritone and tenor sax, and the other with the trumpet and trombone duets. The third, of course, which we call Mauve, and is the blues that follows after the many triangles that developed after the great Negro heroes of the Spanish-American War. And as I say, the blues is born of these triangles. The second movement.
blues ain't nothing. The blues ain't nothing but a cold gray day. And all night long it stays that way. And something that leaves you alone. Ain't nothing I want to call my own. Ain't something with sense enough to get up and go. Ain't nothing like nothing I know. The blues, the blues don't, the blues don't know. The blues don't know nobody as a friend. Ain't been nowhere where they're welcome back again. The low, ugly, mean blue.
Le big band de Duke Ellington interprétant la partie 2, le deuxième mouvement de la suite Black, Brown and Beige. Alors, juste avant que ne commencent les années 44, au tout début des années 43, le département de la défense américain va utiliser la musique comme un élément de, non pas de propagande, mais pour dynamiser les forces armées, et va donc enregistrer un certain nombre d'albums en direction exclusivement des armées américaines. Et voici donc un morceau qui est significatif puisqu'il s'appelle G.I. Stomp et c'est le grand orchestre de Count Basie qui s'en charge. Voilà, c'était le quatrième épisode des années d'occupation 40-44. Demain, un nouvel épisode, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.